La première, podcast.
Un jour dans l'histoire, Laurent Dehaussay.
Nous sommes le 16 mars 1244 à Montségur, forteresse bâtie 40 ans plus tôt sur un piton rocher à plus de 1000 mètres d'altitude dans le comté sauvage de Foix. Ce jour-là, après avoir résisté pendant une année au siège de 10 000 soldats accompagnés d'inquisiteurs, 200 hommes et femmes sont brûlés vifs pour avoir refusé d'abjurer leur hérésie. Ces hommes et ces femmes appartenaient à la communauté des cathares.
On inventera l'inquisition pour brûler ces cathares, comme ils se nomment eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont purifiés, les parfaits.
Un jour dans l'histoire.
Et pour évoquer les cathares avec nous, Benoît Beyer-Derick. Bonjour Benoît Beyer-Derick.
Bonjour Laurent Dehaussay.
Vous allez donner demain une conférence relative aux cathares au Cercle Royal Artistique et Littéraire de Gand. Ce sera à 14h. Alors on va refaire bien sûr cette histoire triste et tragique. C'est un véritable mythe cathare qui s'est forgé dans l'imaginaire collectif. Hérétique pour Rome, sujet insoumis du comte de Toulouse pour le roi de France. Les cathares du Midi, qu'on appelle aussi les Albigeois, sont vaincus au XIIIe siècle, ils disparaissent totalement au XIVe. Alors selon les recherches actuelles, il faut remettre les choses dans un contexte chrétien et dans celui des hérésies médiévales. La condamnation pour hérésie au Moyen-Âge, c'est au fond quelque chose d'assez nouveau.
Oui, effectivement, le Moyen-Âge dure selon les dates traditionnelles de 476 à 1492, et les condamnations pour hérésie interviennent dans la seconde moitié du Moyen-Âge, à partir du XIe siècle. Donc il y avait eu des condamnations pour hérésie dans l'Antiquité, à partir du moment où la religion chrétienne était devenue la religion majoritaire, et puis la seule religion dans l'Empire romain, donc il y avait eu des condamnations pour hérésie, mais entre 385 l'exécution de Priscillien d'Avila qui a été décapité à Trèves et 1022, il n'y a plus de condamnation pour fait d'hérésie. Donc c'est un phénomène nouveau d'une certaine manière qui se produit là un peu après l'an 1000. Et pendant longtemps, on s'est préoccupé de cette question en se demandant pourquoi il y avait toutes ces hérésies nouvelles et en braquant le projecteur sur les hérésies et en considérant que l'Église avait en quelque sorte réagi face à cette prolifération d'hérésies. Et aujourd'hui, on braque un peu le projecteur sur l'Église et sur le rôle de construction de l'Église elle-même qui se réforme après l'an 1000, c'est ce qu'on appelle la réforme grégorienne, et qui laisse à ses marges en quelque sorte toutes sortes de chrétiens qui vont petit à petit être considérés comme hérétiques parce qu'ils n'ont pas un christianisme qui est conforme à celui de l'Église romaine.
Au fond, ces hérétiques s'adaptent au dogme, à l'Église qui devient de plus en plus dogmatique.
Oui, tout à fait. Disons, ces hérétiques pratiquent un christianisme certes un peu différent de celui de l'Église romaine, mais qui est animé par une volonté de retour à l'Église des origines, à l'Église évangélique. Et donc ce sont des mouvements qui vont être rejetés dans les marges de l'Église de Rome. Et c'est au fond une réponse apportée à cette réaffirmation du dogme par l'Église catholique.
Alors avant de mettre en place le décor, on va faire un petit peu de terminologie. Donc aujourd'hui on parle de cathares, mais eux-mêmes ne se qualifient pas comme ça.
Alors non, eux-mêmes ne se qualifient pas comme ça, et ce terme est particulièrement mal adapté, car il n'a quasiment jamais été utilisé pour désigner les dissidents du Midi de la France. C'est un terme qui est apparu tout de même au Moyen-Âge, au XIIe siècle, sous la plume d'un ecclésiastique, Herbert de Schoenau, qui désignait par là, par un jeu de mots un peu savant, soit les adorateurs de la pureté, Donc Qatar viendrait du grec Kataros pur, soit les adorateurs du chat, Katous, un jeu de mots avec le chat, des sortes de sorciers adorateurs du chat. Et ce terme n'était pas utilisé pour les hérétiques du Midi, mais pour des hérétiques de Rhénanie, qui appartenaient aussi à un des surgeons de ce catharisme, ouais. De ce qu'on va appeler le catharisme ensuite, mais donc jamais utilisé pour les dissidents, les hérétiques du Midi de la France, qui étaient plutôt appelés albigeois, parce qu'on pensait à ce moment-là que Albi était le centre de cette hérésie. Les historiens aujourd'hui ne voient plus exactement les choses comme cela. Albi n'était pas le seul endroit, Albigeois n'était pas forcément le foyer central de cette hérésie. Mais eux-mêmes s'appelaient les bons hommes et les bonnes femmes.
Il y a un rapport aussi avec les Bulgares. Hein. Je vous laisse boire un petit coup d'eau. Vous avez un chat dans la gorge, justement. On parlait de chat, hein, des adorateurs du chat. Les Qatars, donc souvent employés, ce mot était souvent employé de façon négative. Il y a un rapport avec les Bulgares aussi, Benoît Beyer-Derrick.
Alors, avec les Bogomiles. Le bogomilisme était une dissidence, une hérésie qui est apparue en Bulgarie et dans l'Empire byzantin, qui s'est développé à partir du Xe siècle et qui ensuite a été poursuivi dans l'Empire byzantin, mais qui s'est maintenu. Et il y a effectivement des ressemblances structurelles entre le catharisme du Midi de la France et le bogomilisme, nommé ainsi par référence au prêtre bogomile. Mais on ne considère plus maintenant que le bogomilisme soit véritablement à l'origine du catharisme dans le Midi de la France.
Nous sommes avec Benoît Beyer-Derrick sur les traces des Qatars.
Nous voici au Moyen-Âge, dans le sud de la France. Durant une brève période, des gens animés d'une foi différente résistent aux chrétiens. L'Église les considère comme des hérétiques, pires que des démons. Pendant des dizaines d'années, la fureur de l'Église s'abattra sur ces chrétiens gnostiques.
Les Qatars n'admettaient donc pas que le monde visible, aussi beau qu'il puisse paraître, ait pu être créé par le bon Dieu.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
On reviendra sur la doctrine Qatar avec vous, Benoît Beyer-Derrick, tout à l'heure. On l'a dit, donc ils apparaissent dans le Midi de la France, mais pas seulement, hein, contrairement à une idée reçue, aussi en Rhénanie, en Champagne, en Lombardie, dans les Flandres. Alors, il y a une structure quand même chez les Qatars. C'est une communauté, une société hiérarchisée.
C'est une communauté hiérarchisée, c'est une communauté qui s'organise en contre-église, en quelque sorte, avec à sa tête des évêques, il y a aussi des diacres, donc il y a un clergé cathar, il y a ceux qu'on appelle les parfaits, mais là aussi c'est un terme impropre parce que ça vient de hereticus perfectus, donc c'est l'hérétique accompli, c'est aussi un terme issu de l'Inquisition. Eux-mêmes, je le disais, s'appelaient plutôt les bons hommes et les bonnes femmes. Il y avait donc des femmes aussi qui pouvaient être, entre guillemets, parfaites, donc avoir ce rôle de membre du clergé cathare, mais pas au plus haut niveau. Et elle pouvait également prêcher l'évangile, elle prêchait aux femmes et les hommes prêchaient aux hommes. Et donc il y avait ce clergé en quelque sorte cathare, et à côté de cela, il y avait les fidèles, les croyants cathares qui se considéraient comme la vraie Église, comme les vrais chrétiens dans la filiation apostolique. Et donc les membres de ce clergé, que l'on appelle improprement les parfaits, étaient tenus à une abstinence sexuelle et une abstinence carnée. Ils ne mangeaient pas de viande, pas de lait, pas d'œufs, seulement du pain, de l'eau et des poissons aussi. C'est-à-dire ce que Jésus lui-même avait donné à ses disciples qui le suivaient. Et ils ne pratiquaient pas de la sexualité à partir du moment où ils entraient dans ce clergé.
Alors petit à petit, le catharisme atteint la noblesse languedocienne et le comte de Toulouse qui protège l'hérésie. Vers 1200, le catharisme méridional connaît son âge d'or. Donc quelle va être la réaction de la chrétienté? On va observer ici le rôle des cisterciens et des dominicains. Alors les cisterciens, tout d'abord, Benoît Beyer-Derrick, comment réagissent-ils?
Alors effectivement, les cisterciens et ensuite les dominicains vont mener en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler une croisade de la parole, avant la croisade effective qui va être déclenchée contre les cathares. Les cisterciens vont accentuer le sentiment qu'il y a dans ce Midi de la France une menace, une hérésie véritablement qui toucherait toute la population. Les travaux de Jean-Louis Biget ont montré par la suite, récemment, que seulement 5 à 10% de la population était peut-être acquise à l'hérésie ou à la dissidence des bons hommes et des bonnes femmes. Mais les cisterciens ont, pour leur part, fait croire que toute la population était atteinte par ce catharisme. Et ils ont essayé de lutter contre cette influence par des sermons, par des missions menées, notamment en Languedoc, notamment par Bernard de Clairvaux. Mais ces missions de reconversion de ces milieux hérétiques au catholicisme n'aboutiront pas, ne seront pas couronnées de succès. Ça sera un échec, surtout que les abbés de Cîteaux étaient de grands seigneurs malgré tout, et donc il y avait une différence très grande entre ce que la population voyait du clergé cathare et de la simplicité de l'église cathare par opposition à la grande église. Et pour imiter en quelque sorte cette simplicité et cette pauvreté, ensuite, les dominicains vont apparaître. Et c'est justement dans cette perspective-là que l'ordre de Saint-Dominique, qui est un prêtre espagnol qui se rend en Languedoc avec son évêque, va justement constituer un ordre qui va être reconnu, qui va être fondé à ce moment-là, l'ordre des frères prêcheurs, dont l'objectif sera précisément de prêcher et de prêcher contre l'hérésie cathare. Et c'est ainsi que les dominicains vont être le fer de lance de ce combat par la parole, mais qui lui aussi ne sera pas couronné de succès.
Et on va voir avec vous quels sont les moyens plus violents, plus radicaux que va mettre en place l'Église pour contrer, donc au fond, cette Église concurrente, hein, les cathares qui deviennent directement une Église concurrente.
Que les seigneurs cathares perdent leurs terres et que ces terres soit donné à ceux qui se croiseront. Faites crier jusqu'à Constantinople que celui qui ne se croisera pas ne boive plus jamais de vin, qu'il ne mange plus sur la nappe, mais par terre comme une bête, qu'il ne s'habille plus de chanvre ni de lin, et qu'à sa mort, on l'enterre à même le sol, comme un chien.
Un jour dans l'histoire.
Extrait ici du film Les Cathares de Stelio Lorenzi dans la série La Caméra Explore le Temps. Nous sommes avec Benoît Beyer-Deric. On va voir que l'Église qui a échoué, vous le disiez Benoît, dans sa lutte pacifique contre les hérétiques va adopter une position beaucoup plus ferme. Avant cela, on va se pencher quand même sur la doctrine proprement dite du catharisme. Alors quelle est cette doctrine et pourquoi au fond a-t-elle rencontré autant de succès ?
Alors tout d'abord, peut-être avant de parler de la doctrine elle-même, je disais que le catharisme ou le clergé cathare, les prétendus parfaits, prêchaient d'exemple. Ils étaient auprès de la population, c'était un christianisme de proximité. Ils vivaient dans des petites maisons communautaires, des petites communautés, et ils pratiquaient une véritable ascèse qui était visible. C'était des maisons ouvertes où la population pouvait se rendre. Et cette contre-église vivait aussi en relative harmonie avec l'église officielle, c'est-à-dire que la population ne voyait pas forcément ces cathares comme étant véritablement contre l'église officielle. Ils pouvaient tout aussi bien aller chez le curé et ensuite aller chercher d'autres soutiens chez les bons hommes et les bonnes femmes qui leur semblaient une sorte d'autre ordre religieux en quelque sorte. Et donc, que prêchait-il ? Quelle était la doctrine ? Eh bien, c'était une doctrine qui se voulait chrétienne, dont toutes les références sont chrétiennes. Il se base sur les évangiles en particulier sur le Nouveau Testament. Et le principal problème pour les cathares, c'est la question du mal, de la présence du mal dans ce monde. Si Dieu est entièrement bon et à l'origine de toute chose, il ne peut pas être à l'origine de ce monde mauvais qui est véritablement l'enfer pour les cathares. C'est ce monde-ci qui est l'enfer, le monde matériel, d'où ce dualisme de création que l'on trouve chez les cathares. Dieu, le Dieu bon, ne peut être l'auteur que de la bonne création, c'est-à-dire la création spirituelle, la création matérielle étant le fait d'un Dieu mauvais, d'un mauvais principe qui a créé ce monde matériel qui est fini dans le temps, qui ne durera pas, et dans lequel nos âmes sont enfermées dans des corps de chair, des tuniques de chair, et il convient de sortir ces âmes pour les ramener à la bonne création, pour les ramener aux principes spirituels, les faire sortir de ce monde matériel. Et quand toutes les âmes seront sorties de ces corps de chair, alors effectivement, c'est la bonne création qui l'emportera, c'est le principe spirituel qui l'emportera. Et donc, ça permet aussi de revoir un petit peu ce qu'on disait du... cette accusation de pessimisme portée contre les cathares, parce que on considère que effectivement ce monde-ci est l'enfer, donc ça semble assez pessimiste. Mais il y a un optimisme profond quant aux fins dernières, quant à l'eschatologie, les fins dernières, car au bout du compte, tout le monde sera sauvé. Même les inquisiteurs, Pierre Outhier, qui est un des derniers parfaits cathares, disait que même les âmes des inquisiteurs qui condamnaient les cathares seraient en définitive sauvées quand ils auront compris le message véritable et qu'ils pourront, après avoir reçu le seul sacrement que les cathares reconnaissent, c'est-à-dire le consolament, eh bien, elles pourront elles aussi rejoindre leurs principes spirituels en Dieu. Et donc, au bout du compte, on ira tous au paradis et l'enfer disparaîtra avec ce monde matériel.
Avec chez les cathares, un rôle, ou plutôt pas de rôle joué par Marie, par exemple.
Pas de rôle, ou peu de rôle joué par Marie. Il vénère quand même Marie, mais Marie n'a quasiment aucun rôle, puisque le Christ est passé par elle, en quelque sorte, comme une goutte d'eau passe à travers un tuyau. Il n'emprunte rien à la nature humaine. Et justement, ce rôle du Christ est assez minoré dans le catharisme, qui est un christianisme fondé plutôt sur l'esprit, un christianisme dans lequel la toute bonté de Dieu l'emporte sur la toute puissance. Et le Christ lui-même, par rapport au Christ, ils hésitent entre deux attitudes qui renvoient à des traditions assez anciennes. Il y a d'une part l'adoptionnisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le Christ serait simplement une créature humaine adoptée par Dieu, ou alors plus souvent le docétisme, c'est-à-dire le fait que, ça vient du grec dokein qui veut dire paraître, le fait que le Christ ne serait qu'en apparence humain. Il est pleinement Dieu. Il a emprunté l'apparence d'un homme, mais en réalité, c'est un fantôme, entre guillemets. Il peut se déplacer sur l'eau, ça s'explique tout à fait, parce que son corps, il n'a pas un véritable corps de chair. Il est pleinement Dieu. Et donc, il est venu dans ce monde qui est soumis à Satan, au principe mauvais. Et dans ce monde mauvais, forcément, il devait subir la passion. Mais en réalité, il ne l'a subi qu'en apparence, car Dieu ne s'est pas réellement incarné, il n'a fait que prendre les apparences d'un homme.
Alors vous le disiez, chasteté, on ne mange pas de viande, pas de fromage, et puis surtout on prône la non-violence totale, donc on ne tue pas même pour manger, et cette non-violence va avoir un effet très dévastateur pour la fin des cathares. On le verra tout à l'heure avec vous, Benoît Beyer-Derick.
Que tous les chevaliers prennent leurs étendards, que tous les hommes montent aux échelles, pas un piéton à la garde du camp et chacun aux murailles. Le sang des infidèles sera doux au Seigneur.
Il faut les tuer tous.
Tous.
Oui, tous. Notre bras est armé par Dieu, ne l'oubliez pas.
Ayez crainte, le Christ n'est jamais absent de notre combat.
Mais ce sera un affreux massacre.
Comment faire autrement?
Mais il y a les catholiques, tuez-les tous. Dieu reconnaîtra les siens.
Un jour dans l'histoire.
En 1208, le cistercien Pierre de Castelnau, légat du pape, est assassiné près d'Arles dans des circonstances troubles après une entrevue qui ne s'est pas très bien passée avec le comte de Toulouse, Raymond VI, qui passe pour être un défenseur des cathares, pour être favorable à cette doctrine. Et c'est un événement majeur qui va marquer le début donc de la croisade contre les Albigeois, contre les cathares. Croisade qui s'étend sur deux périodes. Alors la première, elle va de 1209 à 1224. C'est celle des féodaux, Benoît Beyer-Derick. Alors qu'est-ce que c'est que cette croisade des féodaux? Pourquoi les féodaux s'engagent-ils là-dedans?
Le pape Innocent III lance la croisade à la suite de l'assassinat de son légat. Et il lance cette croisade à laquelle le roi de France ne participe pas dans un premier temps. C'est Philippe Auguste qui a assez à faire avec sa lutte contre le roi d'Angleterre et contre l'Empire. Et donc, ce sont des féodaux de la France du Nord, des barons, la croisade des barons, qui vont se placer à la tête de cette croisade, qui vont participer à cette croisade, avec l'espoir, évidemment, de mettre la main sur les terres du Midi, sur les terres du comte de Toulouse, de Béziers, de Carcassonne. Et à la tête de cette croisade se trouvait théoriquement le légat pontifical Arnaud Amaury, à qui on prête cette phrase célèbre, mais qu'il n'a peut-être pas prononcée, mais qui illustre bien l'esprit de cette croisade lors du massacre de la population de Béziers. « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Mais surtout, le chef de cette première croisade est Simon de Montfort, un petit baron de France du Nord, qui va se montrer particulièrement cruel dans cette croisade. Mais les choses sont complexes parce que Simon de Montfort était lui-même un déçu de la quatrième croisade qui avait été détournée par Venise vers Constantinople en 1204. Et il avait été scandalisé du fait qu'on s'en prenne à d'autres chrétiens. Mmh. Or, ici, il a été à la tête d'une croisade qui s'en est pris à d'autres chrétiens, mais qu'il considérait évidemment comme hérétique, et donc il lui semblait tout à fait justifié d'écraser et de réprimer dans le sang cette population hérétique. Cette première croisade va durer jusque 1224, Simon de Montfort étant mort pour sa part en 1218, tué par une pierre qui a été lancée depuis les murailles de Toulouse. Mais à la suite de cette première croisade, en fait, l'hérésie n'avait pas été résorbée. Elle a même connu un certain succès, de nouveaux succès. Et donc, le roi de France, cette fois-ci, il s'agissait de Louis VIII, a relancé une croisade qui, cette fois-ci, était une croisade royale, avec des moyens beaucoup plus importants. Croisade qui s'est poursuivie après la mort du roi, sous Blanche de Castille, qui était à ce moment-là régente du royaume. Et donc, les croisés ont fini par soumettre le comte de Toulouse en 1229, et ça a marqué l'annexion, en quelque sorte, du Toulousain et de la France du Sud au domaine royal un peu plus tard.
Le comte de Toulouse, qui lui-même donc protégeait, on lisait jusque-là, les cathares, et qui va retourner sa veste, en quelque sorte.
Oui, il va retourner sa veste, contraint, bien obligé. Oui.
Mais il va aussi s'adonner à des persécutions contre les cathares. Hein.
À la fin de cette période-là, effectivement, après des va-et-vient, il va prendre le parti du roi pour maintenir son pouvoir justement sur ses terres, et il va finir par persécuter lui-même ceux qu'il avait jusque-là protégés.
Alors, quelles sont les causes, au fond, de la défaite des méridionaux ? Il y a ce qu'ils prenaient, donc la non-violence, ça ne les a pas aidés, évidemment, dans leur combat.
Alors, la non-violence ne les a pas aidés. Il y a aussi le fait qu'une croisade, c'est la première fois que la croisade était détournée, en quelque sorte, de son objectif d'atteindre les lieux saints, pour se tourner vers les ennemis intérieurs de la chrétienté. Donc une croisade était une chose impressionnante. Manque de cohésion aussi, semble-t-il, des méridionaux qui n'ont pas su dépasser leurs conflits internes. Tout ceci explique en quelque sorte la victoire de cette croisade, mais qui s'est poursuivie ensuite. L'anéantissement de l'hérésie cathare a été mené ensuite par une nouvelle institution qui a été créée en 1233, pour lutter justement contre le catharisme, à savoir l'Inquisition.
Alors l'Inquisition, qui est une, il faut faire là un petit rappel, qui est une invention espagnole.
Non, l'Inquisition n'est pas une invention espagnole. Elle a ensuite été reprise en Espagne sous forme d'une Inquisition d'État, mais l'Inquisition est une institution pontificale au départ, créée par la papauté, par le pape Grégoire IX en 1233, pour justement extirper les restes de catharisme qui avaient déjà été fortement atteint par ces deux croisades. Et ensuite, il s'agissait, d'aller chercher les hérétiques là où ils se trouvent et de supprimer définitivement le clergé cathare. Et ceci s'est produit tout au long du XIIIe siècle jusqu'au début du XIVe siècle, puisque le dernier parfait cathare est mort en 1321. Il s'agissait de Guillaume Bélibaste. Et puis, il y a eu aussi, l'événement qui reste emblématique de toute cette aventure, c'est le siège de Montségur en 1243-1244, qui, lui, a été le dernier événement, ou l'un des derniers événements militaires. C'était déjà après la croisade. Mais à Montségur, s'étaient réfugiées environ 500 personnes, parmi lesquelles 200 croyants cathares qui n'ont pas voulu abjurer leur croyance, leur hérésie, leur dissidence, et qui ont, pour cette raison-là, été brûlés en 1244, ouais, au pied même de Montségur.
Hommes, femmes et enfants. Alors vous disiez quelque chose d'important, Benoît Béhard-Éric, l'Inquisition ne se contente pas de condamner les hérétiques quand ils apparaissent, c'est-à-dire qu'elle va les chercher. Un hérétique, un cathare, c'est pas écrit sur le front. Alors qu'est-ce qui se passe ? Comment font-ils pour les reconnaître ?
Alors oui, l'Inquisition adopte, ce sont des tribunaux d'exception, qui ont été confiés en particulier à des dominicains, un petit peu à des franciscains aussi, et l'inquisiteur va poursuivre l'hérétique de manière active. On ne se contente pas d'attendre qu'une accusation soit portée, on va rechercher l'hérétique là où il se trouve par toute une série de moyens et par la pratique aussi de l'enquête, de la délation et de la torture aussi, soumis à la question. Cela dit, il ne faudrait pas exagérer non plus le nombre des victimes. Je pense que ça a été très impressionnant pour les populations, évidemment, quand un inquisiteur arrive et c'est les poursuites contre les hérétiques. Mais l'un des inquisiteurs les plus célèbres, tristement célèbres, Bernard Guy, sur plus de 600 personnes qu'il a poursuivies tout au long de sa carrière, il n'a condamné à mort que, je dirais, 43 personnes. Mmh. C'est 43 de trop, évidemment, mais cela replace un peu les choses à leur juste proportion.
Et on a une idée du nombre de cathares, de gens qui ont pratiqué le catharisme ?
Non, alors là, c'est très difficile pour ces périodes-là de proposer des chiffres, d'autant que on n'a aucun élément pour pouvoir le dire. Mais tout de même, je disais, il semble que d'après les évaluations de Jean-Louis Biget, on est autour de 5 à 10% de la population, au maximum.
L'Église avait donc, est-ce qu'elle avait quand même des raisons de considérer le catharisme comme une concurrence ou bien
Bien sûr, elle avait des raisons de considérer le catharisme comme une concurrence parce que le catharisme a été, de toutes les hérésies médiévales, celle qui a eu le plus de succès malgré tout, qui s'était constituée en église parallèle et qui ne concernait pas seulement le midi de la France, même si c'est là qu'il s'est développé le plus en raison du soutien des pouvoirs politiques. Mais le catharisme était présent également dans d'autres régions de l'Europe. Et donc, effectivement, il y avait peut-être une menace d'une église parallèle ou d'une autre lecture. Hein. Hérésie, c'est un autre choix. Eh bien, c'est une autre lecture du christianisme médiéval qui aurait pu effectivement se développer et peut-être se maintenir jusqu'à nos jours s'il n'avait pas été réprimé.
Voilà, pour en savoir plus encore, rendez-vous avec vous demain, Benoît Béhard-Éric, à Gand, au Cercle Royal Artistique et Littéraire, dès 14h. Merci beaucoup.